est bien mal acquis. Une écriture collective du droit. Une coproduction Transparency International et Amicus Radio.
En produisant, réalisant et diffusant le premier épisode du podcast « Les biens mal acquis, une écriture collective du droit », Amicus Radio et Transparency International France ont souhaité revenir sur la genèse et les épisodes marquants de l'affaire des biens mal acquis. Véritable odyssée judiciaire qui a débuté il y a près de 15 ans et qui a bouleversé le paysage français de la lutte anticorruption. Afin de donner la parole aux acteurs, avocats, journalistes, magistrats, enquêteurs et organisations de la société civile, intervenus régulièrement ou ponctuellement dans cette affaire tentaculaire aux ramifications multiples, une dizaine d'entretiens ont été menés pour aboutir à un documentaire radiophonique que vous pourrez retrouver sur nos sites internet respectifs, mais aussi sur toutes les applications et les plateformes d'écoute de podcast. Si le documentaire offre une mise en récit complète, mais jamais exhaustive, des affaires des biens mal acquis, il ne permet pas de révéler toute la richesse des entretiens réalisés. Nous vous proposons ici de plonger dans l'océan d'anecdotes, de détails, d'analyses, par la production d'une série de nouveaux épisodes, retranscrivant chacun de ces entretiens dans leur intégralité.
Avec Frédéric Pierson, chef du bureau des avoirs criminels à Europol, l'agence européenne qui favorise l'échange de renseignements et la coordination entre les polices des États membres, nous sommes revenus sur les dernières législations adoptées à l'échelon européen qui facilitent l'identification des avoirs illicites. Nous avons également parlé des immenses défis de la coordination au niveau global et régional, des autorités nationales de police et de poursuite, ainsi que des différents bureaux nationaux de recouvrement des avoirs. Défis qui font de la lutte contre les flux financiers illicites un combat inégal.
Si on doit parler d'une définition des biens mal acquis, à strictement parler, et en France, on parle ici du réinvestissement de fonds publics détournés par des dirigeants au préjudice des structures et des populations qu'ils servent, qu'ils sont supposés servir. Et dans certains dossiers largement médiatisés, on a vu que ces réinvestissements, ça peut concerner des biens extrêmement variés, mais souvent somptueux, voire extravagants. Et ça, c'est pour une définition française, parce qu'en France, ça couvre un champ lexical restreint qui reflète à la fois l'activisme de la société civile sur cette question et la réponse des autorités françaises à cette problématique. On a d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, en France, la direction centrale de la police judiciaire a un groupe qui porte ce nom et qui traite spécifiquement de cette question des biens mal acquis. Maintenant, si on élargit un petit peu, notamment et si on prend la traduction anglo-saxonne de ce terme, ill-gotten assets, on est sur un champ beaucoup plus large. Là, on est sur le champ des avoirs criminels. D'ailleurs, c'est le champ sur lequel moi j'appuie mon travail au quotidien. Les biens mal acquis, c'est une portion congrue de ce travail sur les avoirs criminels, puisque là, on parle du produit direct ou indirect de toute activité criminelle et sur lequel les autorités d'un pays vont tenter de mettre en œuvre, et de préférence vont mettre en œuvre, des mesures de recouvrement. Là, donc, on est sur quelque chose de plus large. Et il faut aussi distinguer cette question des biens mal acquis, des avoirs criminels, d'un troisième champ, qui est celui des biens sous sanctions internationales. Là, c'est à nouveau quelque chose de très différent, avec des acteurs complètement différents. D'ailleurs, ce n'est pas une question sur laquelle je suis personnellement très spécialisé.
Quelles sont les récentes avancées en matière de lutte anti-blanchiment au sein de l'Union européenne ? Jusqu'à quel point ces avancées vont-elles faciliter le travail d'identification des biens mal acquis, non seulement pour les enquêteurs, mais également pour les ONG et les journalistes ?
Alors, si on parle des récentes avancées législatives sur l'accès à des informations financières essentielles, en partant du rapport qui avait été fait en 2007 par le CCFD, ici, on voit en quoi ça va aider ou en quoi ça va continuer à limiter le travail des enquêteurs et des ONG. Moi, j'avais lu il y a plusieurs années de ça le rapport du CCF2, et je dois l'avouer, je suis tombé un peu par hasard, parce qu'à cette époque-là, je ne m'intéressais pas à ce dossier des biens mal acquis, pas spécialement. J'étais tombé dessus un peu par hasard suite à des pérégrinations sur Internet. Je trouvais que c'était un travail absolument remarquable, d'autant plus si l'on considère justement les sources d'informations disponibles au moment de la rédaction de ce rapport. À Europol, mon travail, c'est à la fois d'offrir un soutien opérationnel aux États quand ils ont des dossiers d'enquête, mais aussi d'offrir un soutien stratégique et notamment aux législateurs européens pour essayer de faire progresser la législation et notamment de faire progresser l'accès à des informations essentielles aux enquêtes de délinquance économique et financière. Pour moi, c'est hyper intéressant et j'aime bien cette position à cheval entre les deux, entre le travail opérationnel et stratégique, parce que c'est vraiment deux champs qui se nourrissent mutuellement. Les besoins opérationnels qu'expriment mes collègues de terrain nourrissent ma réflexion stratégique. J'espère que mes apports stratégiques les aident ou les aideront dans le futur pour leur travail. Donc, à ce titre, il y a eu évidemment, j'ai travaillé et j'ai participé à mon échelle aux travaux récents sur l'accès à des informations financières essentielles. Alors, si on peut détailler, il y a deux pans majeurs. Il y a d'abord les comptes bancaires, c'est le premier. C'est quelque chose qui a connu des avancées récentes, mais qui vont profiter aux enquêteurs, pas à la société civile. Et il y a les bénéficiaires économiques. Et là, ça profite aussi, les avancées récentes profitent aussi à la société civile. Les comptes bancaires d'abord. Un compte bancaire, en matière d'enquête financière, c'est pas nécessairement l'alpha et l'oméga de l'enquête financière, mais c'est quand même un élément qu'il est intéressant de connaître. Il est intéressant de savoir si moi, Frédéric, vous, Sarah, vous avez accès à un compte dans un dossier dans lequel on apparaît comme suspect. Donc, c'est une étape sans laquelle on ne peut pas aller beaucoup plus loin souvent. Sans rentrer trop dans le détail des textes, je vais en mentionner quelques-uns, et en mentionnant que toutes les législations que je pourrais mentionner lors de cet entretien sont des législations récentes. En fait, c'est un champ très dynamique, mais c'est un champ relativement récent. Je vais commencer par la fameuse cinquième directive anti-blanchiment, dont la transposition était en janvier 2020, donc c'est relativement récent, qui impose aux États européens de créer des registres centralisés des comptes bancaires. Ce n'était pas une révolution pour plusieurs pays, et notamment pas pour la France, parce que la France a depuis des années, si je ne me trompe pas, c'est depuis 1983, elle avait le FICOBA, le fichier des comptes bancaires, qui est un fichier central. Mais pour plusieurs pays, ça n'existait simplement pas. Donc, si vous aviez besoin d'identifier un compte, il fallait faire la demande à toutes les institutions bancaires. Donc, évidemment, d'avoir un registre centralisé, ça simplifie considérablement les choses, voire même ça vous permet simplement de les faire, parce que sinon, vous n'iriez pas demander à 55 banques, voire même à plusieurs centaines de banques, si Sarah ou Frédéric ont un compte, tout simplement. On a une autre directive qui est elle de 2019, qui est une directive sur l'utilisation des informations financières. Sa transposition est pour août de cette année 2021, donc ça n'est pas encore en place. Cette directive donne accès au bureau de recouvrement des avoirs à ces registres centraux. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne la législation européenne, c'est des effets de cliquet. On crée d'abord des registres centraux, et ensuite, un an plus tard, on crée une directive qui donne accès à certaines unités, ici les bureaux de recouvrement des avoirs. Et puis, bientôt, on discutera de l'interconnexion de ces fichiers. C'est comme ça que fonctionne en général la législation européenne en matière pénale. Et donc, ces bureaux de recouvrement des avoirs, et je suis sûr que j'en reparlerai un peu plus tard dans l'entretien, vont avoir un accès direct à cette information-là. À nouveau, pour la France, rien de très nouveau. C'est les enquêteurs financiers et la PIAC, la plateforme d'identification des avoirs criminels, qui est le bureau de recouvrement des avoirs français, a cet accès-là. Mais pour plein de pays, c'est très nouveau et c'est un beau progrès. Alors, une fois qu'on a identifié un compte bancaire, on sait donc que moi, en tant que suspect, j'ai un compte bancaire quelque part, c'est bien, mais ensuite, il faut demander les transactions, parce que ça, on ne les a toujours pas. Et donc, pour ça, il faut s'adresser à l'institution financière. Et là, surprise, on est en 2021 et souvent les enquêteurs reçoivent de la part des institutions financières dans plusieurs pays européens, reçoivent du papier et donc ils vont devoir éplucher ces papiers et ils vont passer un temps infini à intégrer une donnée financière plutôt qu'à l'analyser. Donc ça aussi, c'est une question dans le cadre de mes activités sur laquelle je me suis penché. J'ai fait créer un groupe de travail dans le cadre d'un projet européen. J'espère qu'on arrivera bientôt, dans le cadre de cette discussion-là, à une situation qui soit un peu plus du 21e siècle pour les enquêteurs, parce que ça les pénalise considérablement lorsqu'il y a des enquêtes complexes avec beaucoup de comptes. Alors ça, comme je le disais, ce n'est pas pour le bénéfice de la société civile, c'est pour le bénéfice des enquêteurs. Maintenant, le deuxième aspect, le deuxième point, c'est les bénéficiaires économiques. Et là, à nouveau, on reparle de la directive, la cinquième anti-blanchiment, qui dit que les registres centraux sur les bénéficiaires économiques doivent être accessibles au public, donc vous en fait, et puis nous aussi, les forces de l'ordre, et puis qu'il faut que ces fichiers soient interconnectés. Alors ça, c'est un progrès majeur en Europe. On a une autre directive, un petit peu moins connue, mais hyper intéressante, qui est une directive de 2019 qui c'est sur l'open data. Celle-là, elle se transpose en juillet 2021. Elle dit qu'en fait, cette information sur les sociétés, elle est tellement importante qu'il faut qu'idéalement, elle soit accessible à tout le monde, gratuitement, en format numérique téléchargeable. Donc, le plus pratique, le plus accessible, le plus transparent et gratuit. Et ça, gratuit, c'est aussi essentiel. Et c'est essentiel pour les forces de l'ordre, parce que cette information sur les sociétés, elle est utilisée, elle est compilée par des sociétés qui en tirent un bénéfice légitimement, mais souvent pour les forces de l'ordre, ça va être trop coûteux. Et donc, ils ne vont juste pas y accéder. Et donc, s'ils n'y accèdent pas, ils se privent d'une information essentielle. Ça, c'est pour la législation européenne. Récemment, les Américains ont aussi passé une loi sur la transparence des sociétés en janvier. C'était nécessaire parce que aussi, les Américains pouvaient, dans ce cadre-là de la transparence sur les sociétés, balayer devant leurs portes. Et donc, c'est une avancée intéressante. Donc, toutes ces directives très récentes sont des avancées intéressantes pour la société civile comme pour les enquêteurs. Mais le diable se cache dans les détails, il va falloir vérifier qu'elles sont transposées de manière complète, le plus transparente possible par les États. Il faut imaginer qu'actuellement, il y a des discussions sur la directive Open Data dont je vous parlais. Il y a certains États qui pensent qu'en fait, le nom du directeur d'une société, ça n'est pas une information couverte par la directive parce que c'est protégé par les règles sur la protection des données personnelles. Donc ça, c'est des choses qu'il faut discuter, c'est des choses qu'il faut négocier. Moi, je participe à mon niveau à des travaux sur ces questions de bénéficiaires économiques. J'apporte ma pierre à l'édifice. Je suis persuadé que vous, de votre côté, vous apportez aussi la vôtre. Et voilà, ça fait partie des choses qu'il faut discuter, mais on progresse.
On a parlé des avancées en matière d'identification des avoirs illicites. Pourriez-vous à présent nous en dire un peu plus sur le recouvrement des avoirs illicites et la caractérisation en droit pénal de l'infraction de blanchiment ?
Si on prend d'autres avancées récentes en matière de lutte anti-blanchiment, anti-corruption, on a aussi d'autres textes que je n'ai pas mentionnés qui peuvent aider dans cette thématique du recouvrement des avoirs. On a une directive que je n'ai pas évoquée, c'est celle de la lutte contre le blanchiment par le droit pénal. Alors, parfois, celle-là, je crois avoir vu sur certains sites internet qu'on l'appelle de manière incorrecte la sixième directive anti-blanchiment. C'est pas le cas. C'est pas une directive anti-blanchiment, mais c'est un texte de transposition récente, puisque là, on est sur un texte dont la transposition était due pour décembre de 2020. Et elle uniformise au plan européen la définition du blanchiment. Et surtout, et ça, c'est essentiel, elle fait du blanchiment partout en Europe une infraction autonome. Ça, c'est vraiment fondamental, parce que grâce à cette directive, la condamnation pour blanchiment, elle est, je cite la directive, possible, même en l'absence de condamnation préalable ou concomitante pour l'activité criminelle dont le bien provient. C'est vraiment essentiel et fondamental. On a beaucoup buté en Europe dans les enquêtes en coopération internationale sur cette question-là, puisque pour beaucoup d'États, il fallait avoir une condamnation préalable pour l'infraction initiale. Et sans condamnation préalable, pas de condamnation pour blanchiment. Donc, ce qui a été fait à titre exceptionnel dans un dossier que vous connaissez parfaitement bien par la France récemment, pourrait être fait à l'avenir partout en Europe. On pourrait avoir une condamnation pour blanchiment sans que des faits de corruption aient fait l'objet d'une condamnation, voire même d'une poursuite. Donc ça, c'est vraiment une avancée essentielle du droit européen. Dans ma pratique à Europol, j'ai eu tellement de dossiers qui se sont arrêtés à cause de ça que vraiment, c'est un des textes les plus importants de la législation récente. En anticorruption, on est encore sur une législation éclatée, un peu parcellaire au niveau européen. On est sur une législation aussi qui n'a pas d'impact extraterritorial. On a des exemples de lois extraterritoriales. La Grande-Bretagne a une loi de 2010 qui a une portée extraterritoriale. Les États-Unis ont une loi en matière d'anticorruption de 75 ou 77, le FCPA, qui a une portée extraterritoriale. Ce n'est pas le cas dans la législation européenne. Moi, je vais suivre, et puis je suis sûr que vous allez suivre avec beaucoup d'intérêt les avancées et le début du parquet européen. qui a une compétence en matière de corruption passive et active d'agent public. Et la définition d'agent public est assez large dans le texte sur une directive sur la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l'Union. Donc ça va être intéressant. C'est hier que le procureur européen a annoncé que son parquet au Luxembourg commencerait ses activités opérationnelles à compter du 1er juin. Donc, on va suivre ça de près. Et puis, nous, à Europol, évidemment, on discute avec nos homologues du Luxembourg pour voir comment on va travailler ensemble. Ça aussi, c'est un développement extrêmement intéressant de la législation européenne.
Avec le choix de certains criminels, qu'ils soient corrupteurs ou blanchisseurs, d'investir leur fortune dans des pays plus cléments et des juridictions plus tolérantes, n'assiste donc pas à un déplacement du problème. Est-ce réaliste d'espérer un nivellement de ces normes anti-blanchiment vers le haut ?
Alors, est-ce qu'il est réaliste d'espérer un nivellement des normes anti-blanchiment vers le haut ? Est-ce que repousser vers d'autres juridictions n'est pas finalement évacuer le problème ? En fait, je pense que le nivellement par le haut, oui, c'est important. Je pense qu'il est essentiel de repousser les limites, de conserver un travail sur les standards internationaux, mais qu'il est vraiment essentiel d'avoir au niveau national ou au niveau régional un nivellement par le haut. Et effectivement, au niveau européen, une partie du travail consiste en fait à repousser un peu les frontières. Mais je pense que si on fait ce travail efficacement et si les États qui s'inscrivent dans une législation très stricte la respectent, à terme, donc à moyen ou à long terme, les États qui ne font pas partie de ce cadre strict n'auront pas très envie d'être dans le dernier carré des pays non conformes. Donc oui, je pense que c'est important de garder ce nivellement par le haut et d'avoir des hauts standards en matière de lutte anti-blanchiment et en lutte anti-corruption. Et après, bien sûr, pour vérifier que les États s'y conforment bien à ces cadres qui s'imposent, la société civile, vous jouez pleinement votre rôle d'aiguillon. Vous vérifiez que, on s'impose des lois et on les respecte. Après, l'imposition de standards internationaux, c'est aussi un travail très important. Mais à moyen ou à court ou à moyen terme, ça implique une négociation et un niveau de négociation qui n'est pas réaliste. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps. Alors, c'est essentiel aussi, mais je pense qu'il faut faire les deux. Après, pour les nommer, les paradis fiscaux, comme on les appelle, la lutte contre les paradis fiscaux, c'est entaché d'un paradoxe originel, en fait, parce que ces paradis bénéficient avant tout à des entreprises légales qui profitent de l'optimisation fiscale qui leur est offerte dans ces juridictions et qui leur permet d'en tirer un avantage compétitif. Donc, c'est très compliqué de vouloir lutter contre ça parce que ça n'est pas en soi illégitime. On a, très récemment, c'est cette semaine, des déclarations du G20 sur l'harmonisation fiscale qui sont vraiment très, très encourageantes. Et je dois vous le dire parce que je n'ai pas suivi l'actualité récente nécessairement, mais plutôt inattendue. Mais si vous enlevez l'attrait fiscal de certains pays, vous réduisez nécessairement le nombre d'entreprises légales qui hébergent leurs activités et mécaniquement, vous rendez les entreprises ou les investissements illicites qui s'y trouvaient aussi pour d'autres avantages d'opacité, vous les rendez plus visibles mécaniquement. Donc, cette discussion sur l'harmonisation fiscale a un effet mécanique sur la prévention et la lutte contre les activités criminelles. Donc, on est bien loin, j'imagine, de voir les fruits de cette discussion, mais d'entendre ça déjà, qui est quelque chose qu'on n'aurait pas entendu il y a quelques années, il y a quelques mois, c'est plutôt prometteur. Donc oui, je pense qu'on a encore du pain sur la planche, mais ça va dans le bon sens.
La peine de confiscation est le meilleur moyen de faire en sorte que le crime ne paie pas. Or, selon un rapport de 2014 d'Europol, dans l'Union européenne, plus de 98% des avoirs illicites n'ont jamais fait l'objet de mesures de confiscation et restent donc entre les mains des criminels. Plus de 7 ans après la publication de ce rapport, est-ce que ces chiffres ont évolué ? Quels sont les principaux obstacles à la confiscation définitive de ces avoirs illicites ? Comment dépasser ces obstacles ?
Le recouvrement d'avoirs, c'est un processus. 5 étapes dans le processus. Identification, saisie, gestion, confiscation, disposition. L'identification. En Europe, on a, dans chaque pays européen, on a un bureau de recouvrement des avoirs. Il s'échange. Je parle là, non pas d'enquête nationale, mais d'enquête internationale. Ils s'échangent avec leurs partenaires des requêtes d'identification patrimoniale. En France, c'est la PIAC qui assure cette fonction, c'est la plateforme d'identification des avoirs criminels. C'est un système extrêmement réactif, mais comme on l'a déjà dit aussi avant, tous les pays n'ont pas accès au même niveau d'information, même si on améliore ça, et donc c'est pour ça aussi qu'on a ces discussions d'harmonisation sur l'accès à l'information. Une fois qu'on a identifié un bien, donc, dont on suspecte qu'il est le produit d'une activité criminelle. Il va falloir le saisir, et ça, c'est une activité de l'ordre judiciaire. Alors, récemment, on a un règlement européen qui a remis à plat toute la législation sur le système des ordonnances de gel et de confiscation. C'est entré en application très récemment, en décembre 2020. On va faire bientôt la première évaluation de ce nouvel outil, et j'espère que les États se sont saisis de cet outil, parce que celui qui l'a remplacé n'était, on va dire, pas le plus efficace. Donc, j'espère qu'avec ce nouveau texte, avec ce nouvel outil, on va améliorer nos résultats en matière de saisie et de confiscation dans le cadre d'enquêtes transnationales. La gestion, c'est une phase absolument essentielle, évidemment, puisqu'en fait, on s'appuie sur des biens qui sont souvent des biens tangibles et il va falloir les conserver. Donc, ça nécessite des intervenants spécialisés qui vont soit les vendre avant jugement quand c'est légalement possible, soit qui vont essayer de les maintenir dans le meilleur état possible et au meilleur coût possible jusqu'à une décision définitive. En France, c'est l'AGRASC qui assure cette fonction. L'AGRASC, c'est l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Pour une majorité des biens, c'est cette agence qui s'occupe de la gestion. Et parce qu'il y a des biens qui sont très simples à gérer, un compte bancaire, du cash, c'est relativement simple à gérer. Il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Un immeuble, une société, un avion, du bétail. Il y a des choses qui sont affreusement complexes à gérer. Il faut un personnel très spécialisé pour le faire. Et si on ne sait pas le faire, et bien tout simplement, à la fin, on n'a plus rien à confisquer. La confiscation, justement, ou la restitution, on est presque au bout de la chaîne, mais on n'y est pas encore tout à fait. C'est la décision soit de retirer définitivement la propriété d'un bien à quelqu'un qui aura été condamné, c'est ce qui se passe en France, la confiscation est une peine accessoire à une peine principale, soit on va lui restituer en cas d'acquittement. Et donc, quand on a fait ça, on est presque fini, mais pas tout à fait, parce qu'il faut disposer du bien, et là aussi, on peut avoir du déchet des fois. Et en fait, ce qui est traître dans cette histoire de recouvrement des avoirs, c'est qu'en fait, la seule phase qui compte, c'est celle-là, c'est la disposition. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait tout ça, et ça peut prendre très longtemps des fois, une fois qu'on a fait tout ça, on peut acter que le transfert de propriété est définitivement acquis. Le produit de la vente du bien va soit au budget général de l'État, soit à un fonds spécial, où le bien lui-même va être réutilisé à des fins sociales, et on a terminé, et on est content. Et on l'a fait dans 2% des cas, d'après le rapport d'Europol. Donc, on a une petite marge de progression, on va dire. Alors, ces étapes, elles interviennent à peu près toujours dans cet ordre. Il peut arriver que des fois, elles soient simultanées, mais la plupart du temps, elles vont intervenir à différents moments, ces 5 étapes, et parfois, ces moments vont être espacés de plusieurs années. Donc, c'est le premier risque de dissipation, c'est que c'est long. Le deuxième risque, et le risque majeur, c'est que ces étapes elles vont être prises en compte par des personnes différentes et des services différents. Et donc, il y a un très fort risque de dissipation des avoirs dans le processus lui-même, si les intervenants communiquent mal. Rapidement, je vais prendre une image pour que ce soit aussi plus simple pour les auditeurs de comprendre. Le football, un match de football, ce qui compte, c'est les buts. Il y a les passes, il y a les dribbles, il y a les fautes. Ça, c'est le jeu. Il y a du beau jeu, il y a du jeu médiocre, mais ce qu'on attend, c'est les buts, en fait. Et donc, dans mon exemple, c'est la disposition. Il faut imaginer une équipe qui aurait des footballeurs, des rugbymen, un perchiste, un champion de natation, des golfeurs. C'est tous des super sportifs. Ils sont tous des professionnels accomplis, mais ils vont peut-être avoir du mal à marquer des buts ensemble. Surtout qu'en phase 2, on a un suspect avec sa défense, ou on a plusieurs suspects avec leur défense, qui, eux, ont vraiment une action ciblée, concertée. Et on a vu en France et dans d'autres pays européens et au-delà de l'Europe, on a vu des cabinets qui se sont spécialisés dans ces questions de saisie et confiscation, parce qu'évidemment, c'est fondamental pour un suspect de récupérer les biens qu'il a durement acquis de son labeur illicite. Donc, c'est un peu ça le recouvrement d'avoirs, c'est un espèce de combat asymétrique. Alors, évidemment, pour renforcer la cohésion de l'équipe, on échange des bonnes pratiques, on discute ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Moi, avec la Commission européenne, je co-dirige une plateforme des bureaux de recouvrement des avoirs. On se réunit régulièrement et on essaye de faire des avancées, notamment des avancées législatives. On discute actuellement de remettre à plat, de faire un lifting du cadre légal des bureaux de recouvrement des avoirs européens qui date de 2007. Et puis, j'ai oublié de mentionner que dans mon équipe, j'ai la secrétaire d'un réseau qui s'appelle Karine, qui va au-delà de l'Europe, en fait, et qui réunit de nombreux États pour essayer de simplifier cette coopération internationale pour l'identification, la saisie des biens. Et avec tout ça, on est toujours à 98% de biens qui restent aux mains des criminels. Dans un monde parfait, on devrait être à 100%. Ça, ce serait vraiment dans un monde parfait. Ça voudrait dire que ça n'a aucun intérêt de commettre un crime puisqu'on va tous faire prendre. Dans un monde idéal, il faudrait qu'on soit au moins au niveau d'une imposition, d'une activité légale. Ça voudrait dire que commettre une activité illégale ou légale, ça vous coûterait autant, soit en impôt, soit en confiscation. Et là, ça aurait un vrai effet dissuasif parce qu'en plus, quand on commet une activité illégale, on aurait quand même le risque aussi d'aller en prison. Donc là, je pense qu'il y aurait un véritable effet dissuasif si on atteignait ce niveau de l'imposition. Bon, on va être réaliste, on ne va pas mentir aux auditeurs, on ne vit pas de ce point de vue-là dans un monde idéal. On en est très loin. Je pense que je serai à la retraite avant de voir l'avènement de ce monde idéal. Je suis plus tout jeune, mais quand même, je pense que mon successeur aussi atteindra la retraite avant d'en arriver là. Mais bon, voilà, on continue. C'est un beau combat. C'est quelque chose à faire et c'est pour ça qu'on est là, quoi.
Dans le cadre des affaires de type bien mal acquis, les ONG plaident pour la restitution des avoirs confisqués aux populations dans les pays d'origine. Aujourd'hui, rares sont les pays qui disposent de mécanismes de restitution. Et l'on assiste à des pratiques disparates en la matière. Pensez-vous qu'un cadre européen, voire un cadre global, posant des principes généraux en matière de restitution, soit faisable et souhaitable ?
En ce qui concerne la restitution des biens par un État à un autre, on peut distinguer deux choses. Y a une chose qui est celle des... Comme j'avais fait une distinction au début entre les avoirs criminels purs et la question des biens spoliés, qui est celle qui vous intéresse évidemment le plus. Alors, en ce qui concerne la restitution des avoirs criminels, on a des règles en matière européenne qui sont très simples et qui fonctionnent bien de partage lors de la restitution des avoirs confisqués. Ça fonctionne plutôt très bien, les États rédigent des conventions de partage, ils s'en rédigent plusieurs chaque année et ça marche bien. D'ailleurs, le règlement européen dont je parlais, qui vient d'entrer en vigueur en application en décembre 2020, inclut aussi un aspect nouveau qui est la restitution aux victimes, et notamment aux victimes d'escroquerie, qui était un aspect très important, qui était négligé jusque-là par la législation européenne, et c'était vraiment un apport très important. Ça fonctionne bien. Après, on arrive sur la question beaucoup plus complexe de la restitution des biens spoliés, notamment dans le cadre des biens mal acquis et de travail sur des kleptocrates. C'est beaucoup plus complexe. Il y a un débat très intéressant en France actuellement sur la question lancée justement par la société civile. En ce qui concerne un possible cadre commun au niveau européen, il faut d'abord remarquer que les États européens sont tous signataires de la Convention de Mérida, qui inclut un article général sur la restitution des biens. Alors, c'est à peu près tout ce dont on dispose actuellement. Et je pense, j'ai peur de vous décevoir, mais je pense que la discussion dans les États européens sur ce sujet n'est pas encore assez aboutie pour garantir un cadre législatif européen commun. Parce que la législation européenne, c'est des longues, voire et des fois des périlleuses négociations. Et je ne suis pas sûr que sur des questions qui sont à qui restituer dans le cadre des biens mal acquis, qui est le propriétaire légitime du bien spolié, comment on restitue et comment on garantit que les fonds ne sont pas à nouveau détournés ? Quel niveau d'interventionnisme l'État qui restitue négocie-t-il avec l'État qui récupère les biens ? Toutes ces questions-là sont des questions qui n'ont été abordées qu'au plan national par quelques États et sur lesquelles on n'a pas de réflexion générale encore. Alors, un cadre législatif européen serait-il souhaitable ? Sans aucun doute, à titre personnel, je dirais plutôt oui. Est-ce qu'il est faisable ? On n'y est pas encore.
Merci beaucoup Frédéric pour ces échanges passionnants. Une dernière question avant de clore notre entretien. Peut-on espérer dans un futur plus ou moins proche des avancées, voire des succès en matière de lutte contre les flux financiers illicites ?
Est-ce qu'on peut évoluer sur cette question en partant d'un cadre plus général, plus large, sur la transparence d'une manière générale? C'est ce qu'on fait sans aller nécessairement sur le cadre des biens mal acquis, c'est ce qu'on fait d'une manière générale sur tout ce travail qui est fait actuellement sur le bénéficiaire économique, les bénéficiaires effectifs, qui est un travail extrêmement intéressant et extrêmement important, qui amènera des avancées majeures. Notamment la société civile fait un travail extrêmement intéressant sur ces bases de données. Une des plus récentes, c'est un travail qui a été présenté sur les LuxLeaks. Les LuxLeaks, où tout le registre de commerce d'un pays, le Luxembourg en l'occurrence, a été téléchargé et analysé par un consortium de journalistes. Alors, c'est passionnant comme travail. C'est partiellement injuste pour l'État d'ailleurs, parce qu'en fait, plus l'État est transparent et plus il prête le flanc à la critique sur la manière dont il incorpore ses sociétés. Donc, c'est partiellement injuste pour les États qui offrent cette transparence, mais c'est un mouvement qui va dans le bon sens. Et c'est sans doute pour votre plaidoyer un axe de discussion intéressant, parce qu'effectivement, sinon, sur la restitution des biens mal acquis, on a des discussions qui sont extrêmement sensibles d'un niveau diplomatique qui dépasse largement le travail que je peux faire au quotidien chez moi ou que les forces de l'ordre peuvent faire.
Ce podcast s'inscrit dans la foulée du podcast Les biens mal acquis, une écriture collective du droit. Un podcast coproduit par Amicus Radio et Transparency International France. Cette nouvelle série du podcast a été écrite et produite par Sarah Brimboeuf et réalisée par Léobargo Arango avec l'appui et le soutien de Sarah Albertin, Myriam Clémenceau, Léa Delion et Benjamin Guy. Nous remercions tous les intervenants pour leur temps et leur gentillesse. Vous pouvez réécouter et partager ce podcast en vous rendant sur le site internet d'Amicus Radio à la page Les Documentaires ou sur le site de Transparency International France.